je te parlerai maintenant de la transition possible entre ces deux mondes dont je t'entretiens depuis le début. Deux mondes. Dans ton monde, le produit de la conception, après 3 mois de grossesse, se nomme fœtus. Une masse qui se précise déjà en adoptant ressemblance ou dissemblance des parents par ses caractères féminins ou masculins. Il bouge, se nourrit et croît sans qu'on ne lui apprenne comment. Le jour venu, il doit quitter son repère et faire face à l'inconnu. Dès cette nouvelle étape, l'enfant est confronté ouvertement à l'individualité de ses pairs et, au prix de sa vie, il se doit d'apprendre à développer la sienne. Il pleure, il s'affirme, il boude ou fait des façons, il rampe ou se cabre. La liste est sans fin et exige une longue période de réalisation. Il doit s'approprier une personnalité distincte qui lui permettra d'être reconnu à n'importe quel prix. Cette étape correspond à la mise en place d'une forme de structure qui agit comme moyen de défense contre tout ce qui semble faire ombre à l'individualité égocentrique. Si, après tant et tant d'efforts pour t'identifier à une personnalité aussi distincte et puissante, tu commences à comprendre que cette force apparente n'est qu'un premier stade, dont les avantages ne t'offrent ni la joie ni la paix profonde que tu recherches, c'est un pas dans la bonne direction. Il se peut que tu trouves quelques pistes à travers la religion, les arts, l'écriture, la musique, le chant, la lecture, la psychologie, les sciences, la collaboration à des projets collectifs, des services de santé, de contributions sociales, enfin, tout autre travail qui te rapproche de ton frère sans pour autant te délivrer d'un cafard souterrain. Tous ces engagements peuvent servir de tremplin ou de toile de fond à la condition que tu sois capable de prendre une distance assez saine pour t'observer. La subtilité toutefois, c'est que si au cours de ces pratiques tu ne t'es pas délivré de l'ego, la traversée ne te sera pas encore disponible parce que tu demeureras identifié à un rôle au lieu d'y échapper. Il se pourra alors que la vie s'en mêle et qu'elle te provoque par le biais de l'épreuve. Il est possible, par exemple, qu'elle te crée des face-à-face avec des égos de même amplitude que le tien. Non pour te punir, bien sûr, mais surtout parce qu'inconsciemment, tu invites ces provocations afin de te créer un choc d'éveil. Une sorte d'exhortation qui cherche à rappeler à ton esprit un engagement formel que tu as pris avant même d'atterrir dans le sein de ta mère. Indépendamment de ta mémoire temporelle et somnolente, ces engagements, ratifiés officiellement à un autre niveau, précèdent ta marche et te proposent de ne jamais dévier de cette trajectoire depuis longtemps tracée. Si tu oublies, je te rappelle que tu as mis ton désir de développement en consignation chez moi. Alors, je veille. Un appel inédit t'incite de nouveau à la libération. Quand l'épreuve a fait son travail d'excavation, il est possible que tu aies compris, même sans l'exprimer en ces termes, que le passage ne se traverse jamais en manteau d'ego. Mon signal te devient de plus en plus perceptible. Souvent, ce que tu nommes le hasard te propose, par le biais d'une rencontre, d'une parole, d'un livre, d'un voyage, une traversée totalement imprévue. On dirait qu'une semence de joie t'a reconnu. Tu lui proposes un gîte et, lentement, elle germe en toi et t'aide à percevoir la différence entre le faux et le réel. Au jardin secret de ton être, ta vision de la vérité s'éclaircit. Les stratagèmes de l'ego te deviennent perceptibles, ta vigilance redouble de concentration. Tu vois plus clairement les ravages que la peur, la haine et la culpabilité opèrent au nom de la dualité. Tu en arrives à comprendre ce que veut dire choisir entre l'ego et l'esprit divin. Un oui irréversible en réponse à mon appel, et tu viens d'opter pour la voie de la souveraineté. Certains jours, tu trouves que la démarche manque de clarté, qu'elle est trop exigeante, qu'elle s'éloigne de ce que tu nommes la réalité de ton monde. À l'ombre de ce doute, se cache ta peur vertigineuse de sortir du rêve. En plus, d'autres rêveurs te pointent du doigt et tu crains de perdre ton luxe de bon apôtre complaisant, généreux, attentif. Toutefois, les discussions vaines ne te présentent plus beaucoup d'attrait. Tu n'as plus l'intention de convertir ou de convaincre. Tu es de plus en plus dépouillé de l'apparence, des liens familiaux, d'amitié, des reconnaissances particulières ou publiques. Pourtant, ta porte reste grande ouverte et ton amour pour l'autre de plus en plus gratuit. Remarque, viennent alors vers toi ceux que tu n'attendais pas, et la communion s'impose. Tu marches, entre deux mondes. Fondamentalement, tu sais que c'est avec ton frère que s'effectuera la traversée définitive. Tu aspires au moment où tu pourras goûter définitivement ce qui te semble encore l'inaccessible fusion. Alors, tu t'impatientes. C'est que tu n'as pas encore tout compris au sujet du temps. J'y reviendrai. Sache pourtant que le tumulte du temps ancien est maintenant révolu. De plus en plus, une nouvelle perception se gravera en ta pensée. Ne cherche pas avec ton mental inquiet. Le gland mis en terre ne s'interroge pas sur la structure du chêne. À lui seul, il contient la forêt. Souviens-toi que je suis propriétaire de tes clés. Donne-moi ton impatience. Chante, petit passereau, c'est moi, en toi, qui mène le processus à terme. Ne sens-tu pas, certains jours, que tu te retrouves de manière plus constante en l'esprit divin? Ton passage vers l'état christique se concrétise à mesure que la mémoire divine se rappelle à toi. Offre un moment de silence et consens à tendre l'oreille à son insistance. Si tu te contentes de trouver le temps trop long, quelle transformation crois-tu que cela peut opérer? Relâche le temps. Cette solitude, qui est tienne, comporte des odeurs de mutation, malgré ou plutôt à cause de ce vide peu familier qui s'approprie ton espace. Vide, tellement évocateur de la juste mémoire de l'immortelle divinité qui t'habite. La seule fontaine lumineuse encore tienne pour le moment, tu la trouves dans le silence ou la lecture de ce livre hors du commun, Le cours en miracle. Comme tu es soulagé depuis que tu as entrepris cette courageuse aventure. Plus besoin de chiffrer des prières et des sacrifices comme à l'ancienne. Tu cesses de croire que le rêve est réalité, que tu n'as d'autre choix que d'être assujetti aux lois ineptes de l'ego. Plus besoin de soumission à l'esclavage, imposé par des normes venant de l'extérieur. Plus besoin de ces chaînes de la culpabilité qui t'ont immobilisé si longtemps et qui font tout pour te retenir au portique de la mutation. Plus besoin du bâillon de la peur qui t'a imposé de faux silences, des retraits taciturnes et moroses dus à ta différence qui semble te séparer de ton frère. Véritablement, tu commences à entrevoir la beauté de mon visage en ton esprit, à pressentir la légèreté du sans-forme, à entendre le chant de l'unité qui dépouille tous tes frères de leurs coffrages illusoires, à humer le parfum d'ambre de la maturité. Demande-moi de chanter, et je te ferai entendre une mélodie encore lointaine, mais de plus en plus réparatrice et apaisante. Cette harmonie des plus lumineuses se joue en ton esprit à mesure qu'il renaît à lui-même. Comprends, c'est la source divine qui t'incite, t'exhorte, te supplie de manière insistante de la reconquérir. Elle n'a qu'une aspiration, qu'un seul désir, qu'une unique sollicitation, que toi et tous tes frères soyez délivrés du mensonge incroyable de l'impuissance et de la division, pour revenir enfin au monde de la vérité. Vous y retrouverez la connaissance et la puissance créatrice de cet amour qui n'a jamais cessé d'être vôtre et hors de toute limite. Vous serez alors délivrés du temps, de l'espace et de l'incarnation. Je t'aime. Oh, si seulement tu pouvais pressentir l'immensité de cet amour guérissant. Tu ne voudrais plus jamais endosser les opinions insanes de l'ego. Le temps. Parlons du temps. Installé au jardin de ta pensée, avant même ta naissance, le temps s'arroge des pouvoirs excessifs. Il enferme et manipule ton monde avec aisance. Il te fait croire qu'il est rectiligne, alors que demain est peut-être hier. Il se fractionne en millièmes de seconde, t'impose des limites et des obligations, des défis et des déceptions, des reproches ou des louanges. Il règne sur tes heures de travail, t'oblige à courir pour prendre ton autobus et à attendre dans la file de la circulation, à recevoir ici des reproches pour tes retards et rarement des compliments. Il est maître jusqu'à ta mort, rendant celle-ci plus ou moins triste, selon le nombre de jours en apparence accumulés en ton monde, sans tenir compte du nombre d'incarnations enchevêtrées. Il falsifie les apparences afin que tu ignores qu'il manigance avec l'ego pour te garder prisonnière de la culpabilité, de la colère, de la peur et de tous les genres d'émotions. Il te confine à des limites sévères, t'agglutine au passé, empoisonné de regrets, et te fait craindre le futur, l'épreuve, la maladie, le vieillissement et la mort. Il te dira même que tes enfants sont plus jeunes que toi, alors que dans ton ignorance des frasques de l'ego, tu ignores les renversements du temps. Si, par une observation motivée et constante, tu regardes honnêtement toutes les préoccupations qui te sont imposées par ce tordu de faux maître qui abuse de son pouvoir, progressivement, tu te libéreras de son emprise. Tu seras à même de lui imposer tes propres choix. Au lieu de le laisser t'utiliser, aie recours à ta propre capacité de décision avec l'intention de respecter ton frère qui t'a donné rendez-vous, de t'accorder, malgré des reproches ou regards désapprobateurs, un repos bien mérité, une marche en nature, un moment de création et des heures de silence réparateur. Le temps n'est maître que de celui qui lui accorde un pouvoir absolu de se faire obéir. Afin de progresser sur ton chemin, ne confonds plus l'ego caché derrière le masque du temps et la nécessité en ton monde de considérer l'écoulement de tes jours comme un allié nécessaire alors qu'il est éphémère, transitoire et irréel. Ton observation vigilante te rendra plus consciente au quotidien de la finesse de ses ruses et du pouvoir qui est tien de les contourner. Tu peux attendre pour comprendre. Il y a longtemps que tu prolonges le tempo de ces courses folles au profit de ton individualité et que tu fais durer la souffrance, te cognes le nez au mur de la mort et reviens pour courir encore. Je suis patient d'une indulgence indéniable qui te presse avec respect. Mon appel qui ne se dément pas. Pourtant, c'est toi le décideur. Il y a quelque temps, tout à fait naïvement, sans trop connaître l'origine de la poussée, tu as voulu t'instruire sur la structure énigmatique de la culpabilité. En ce lieu particulier à subtil niveau vibratoire, tu as goûté l'enivrante liqueur de l'unité. L'ego, fin rusé et mal à son aise, a mis en place des conditions où tu serais possiblement happé par ton vieux réflexe de doyenne responsable. Berné par ce faux associé, au lieu de saisir à fond le sens de la culpabilité, tu t'y es aveuglément retrouvé, immergé comme une épave sans rien comprendre. « Quel piège magnifique !» se dit-il à lui-même, ignorant qu'il venait de te fournir le passe-partout de ta délivrance. Entre deux avancées, tu as créé un procédé transitoire dans un espace clos à la fine pointe de toi-même. Entre résistance et abandon, tu as tenté de décrypter, virgule par virgule, le sens mystérieux de ton malaise. Tant et aussi longtemps que ce fut le visage de l'autre que tu as regardé, tu as bu du vinaigre. Quand tu as consenti à y superposer le tien, tu as compris le piège diabolique. L'épreuve transitoire t'a acculé au pied du mur précédent ta libération. Ce pied du mur, quel lieu de prédilection pour orchestrer une campagne anti-ego. Et les écailles sont tombées de tes yeux. Tu as désormais franchi une étape essentielle dans la compréhension de la culpabilité. C'est un poison opaque, enfoui dans les ténèbres, enfermé secrètement sous un amas de peine, de déception, de colère inapparente, de peur et surtout, de toute forme d'émotion costumée. Quand tu te crois responsable d'une personne que tu voudrais sauver et qu'elle te rend impuissante à le faire, alors tu te juges inadéquate. Tu te blâmes, tu te sens coupable et ne sais comment réparer. Sois sans inquiétude. 10 fois plutôt qu'une, tu paieras la dette, arrérage inclus. C'est ce que veut l'ego. Comprends, une fois pour toutes, cette création n'est pas de l'autre. Elle est appelée par toi pour te proposer un pont qui te permettrait de changer de rive. Tu peux tourner en rond, renouveler l'expérience des milliers de fois, avoir en abomination tous ces miroirs qui te proposent de démanteler tes propres impuissances ou tes besoins d'être sauvé. Si tu t'en remets au décideur que je suis en toi, que tu optes en toute connaissance de cause pour la traverser, tu verras fondre tous ces faux semblants de rêve, ses inexistantes responsabilités et toutes les formes de fautes dont tu t'accuses. Sur les rives de ton monde, ne l'oublie surtout pas. De fautes, il n'y a jamais. D'apprentissage, il y a toujours. Son honneur, l'ego, ce fantoche de paille inexistant, s'éclipsera devant tes yeux quand tu t'en souviendras. Par voie de conséquence, tu entendras l'hymne au soleil frémir en toi comme un appel à la joie. Elle avance. Son pied fragile frôle la dalle. Ni sur son visage, ni dans son regard, rien d'apparent. Plénitude impossible à soupçonner. Habillée de silence, elle avance. Soustraite aux regards inquisiteurs, docile au vent de liberté. Hier encore, la naïveté l'avait piégée dans un filet subtil enduit de faux nectar. Elle avait succombé, éblouie au dehors, égorgée au dedans, à genoux, front appuyé dans des cendres de rêve. Au beau milieu du feu, elle éprouve l'épreuve en vue de la reconstruction de son strict parcours, car aujourd'hui, elle sait. Elle sait que de naître de son propre placenta, c'est naître pour toujours. D'un amour déjà né, elle avance, guidée par la lumière, détachée de sa propre censure, en lien étroit avec les assoiffés. Libre du oui, libre du non, sur le fil de la conscience, seule, elle avance.